Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. Mais pas seulement. Aujourd'hui, justement, on va vous parler de la All Elite Wrestling AEW Revolution, le dernier pay-per-view en date de la concurrente numéro 1 de la WWE, la fédération de Tony Khan, la fédération des Young Bucks de Cody Rhodes, qui nous proposait un incroyable pay-per-view avec notamment un main event de folie, des barbelés explosifs, une stipulation qu'on voyait souvent au Japon. Donc on va parler catch une petite heure et pour m'accompagner dans cette review de folie, l'inimitable Papy. Comment ça va, Papy?
Bonjour Inside, bonjour les petits enfants, mais oui, c'est la folie dans les studios.
Hein, c'est ça, c'est une ambiance de feu. Hein. On a quelques personnes dans le public. On a bravé les recommandations contre le Covid, donc ça va être génial. Ouais. Dédions un peu cette émission à Jim Crockett Jr. Qu'en penses-tu?
Bon,
décédé il y a peu.
Ouais, après, on va dédier l'émission à défaut de dédier le show.
Oui, l'émission, pas Révolution, c'est un peu. Bah, il se revendique quand même un peu comme les héritiers hein, de la Jim Crockett Promotion, qui était la fédération concurrente de la WWE dans les années 70-80. Jim Crockett était un peu l'homme à abattre par la némésis de Vince McMahon. Hein. D'ailleurs, Vince McMahon a réussi à le faire couler. La Jim Crockett Promotion, c'est ce qui est devenu par la suite la WCW, hein, quand ça a été revendu à Ted Turner. C'est là que des stars telles que Ric Flair, Harley Race, Dusty Rhodes, hein, ont fait leurs plus belles heures, Ricky Steamboat. Donc voilà, il fallait peut-être quand même rendre un petit hommage à Jim Crockett, qui était quand même un des promoteurs les plus importants de l'histoire du catch. Mais
tu l'as bien fait.
On a préféré le faire. Hein, t'as vu ça? Du beau boulot. Donc, Révolution. Hein, allez, parlons de choses concrètes. Il y avait un pré-show que nous n'avons pas regardé. J'ai pas dit que ça se passait à Jacksonville. J'ai pas dit que c'était le 8 mars, le dimanche 8 mars. Alors, je pensais que ça passait le samedi, moi, leur show. Mais non, finalement, c'est le dimanche. Mais bon, on va pas commencer à critiquer rien que sur la place horaire du show. Donc, on n'a pas regardé ça. C'était Britt Baker et Maki Ito qui ont battu Thunder Rosa et Rio. Rio, c'est l'ancienne championne, en fait, hein, je crois. Au tout début, c'est pas ça. En tout cas, il y a deux catcheuses qui s'appellent Rio, hein, finalement. On reparlera d'une autre Rio. Ça a duré un petit quart d'heure, je crois. Voilà, si vous voulez savoir si c'était bien, vous pouvez aller le regarder, je pense qu'il est dispo sur YouTube. Si on rentrait dans le vif du sujet.
Avec plaisir.
Les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, les champions, défendent leur titre face à l'Inner Circle représenté par Chris Jericho et MJF. Ils sont accompagnés de Wardlow. Donc c'est l'opener, ça dure 17 minutes 50. Je dirais que c'est un déroulé assez classique des Young Bucks. Hein, si vous avez déjà vu des matchs des Young Bucks, ils ont fait à peu près tout ce qu'ils font habituellement. Chris Jericho et MJF, ils ont surtout vendu, hein, fait un petit peu de figuration. Ils ont essayé quelques filouteries à Wardlow qui a participé un petit peu à l'action. Mais ça n'a pas suffi pour vaincre les Young Bucks qui s'imposent après une série de super kicks dans la phase de MJF. Et puis je crois un Meltzer Driver pour la victoire sur Chris Jericho. Un peu plus tard dans le show, on nous apprendra qu'il y aura un conseil de guerre à Dynamite cette semaine. Parce qu'il faut du changement, nous dit Chris Jericho après cette défaite. Bon, il nous dit qu'il n'a jamais rien raté dans sa vie. Hein. Une petite promo qui est assez rigolote quand même avec Jericho. Et MJF est d'accord, il faut du changement à l'Inner Circle. Alors, il y aura peut-être un putsch cette semaine à Dynamite, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, mon bon papy?
Ouais, alors je suis pas un grand fan des Young Bucks.
T'as pas l'air très motivé.
Ce match m'a rappelé pourquoi. J'ai des soucis. Hein?
Je dis, tu n'as pas l'air très motivé par ce match.
Ben non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai des soucis avec la manière dont ils racontent les matchs, en fait. Et ça va un peu trop chercher loin dans ma stupidité de fan de croire que tout ce qu'ils font est logique. Et donc là, pendant peut-être 5 minutes, 5-10 minutes, enfin, je ne sais plus exactement la durée du match, mais en gros, on va dire la première partie du match, ils ont quand même passé le temps à être tout le temps à deux en même temps dans le ring, à deux en même temps en action, etc., à faire des prises à deux. Et puis d'un coup, ils se mettent à nous faire la partition du face en péril, donc avec du « mais tu es trop loin pour que je te tape dans la main, mais tu es trop loin pour que je vienne t'aider ». Non mais les couillons là, vous avez passé tout le temps, toute votre partie de match à être à deux en même temps dans le ring, pourquoi là vous voulez plus passer la barrière des cordes? C'est quoi cette logique en fait? Et donc voilà, donc en fait ils commencent un match en bordel, ils repassent dans une partition classique derrière et puis ils finissent un peu en bordel. Bon, la suite du match est plutôt plus classique, c'est plutôt propre, même si leur finish, moi je le trouve pas terrible en fait, parce que finalement t'en as un qui fait tomber le mec sur la tête et t'as l'autre qui fait une pirouette dans les airs, mais qui ne touche absolument pas pas l'adversaire, donc c'est juste une pirouette. Donc bon voilà, et puis ouais, le c'est moins backstage effectivement. Dans le regard de MJF, on sent que s'il y a du changement à venir, ce sera pas forcément dans le sens de Jericho.
C'est ça, on sent la trahison venir, un remake du Festival of Friendship, hein. Ce sera la War Room, on appellera ça. Yes. Ouais, non, bah, je suis assez d'accord avec toi, hein. Finalement, ça reste un spot face. Alors, c'est une très grande équipe, les Young Bucks, mais quand ils font les baby face, c'est pas forcément leur meilleure partition. Et ouais, comme tu dis, c'est un peu pas très logique cette histoire de foutre le bordel et puis après d'essayer de jouer le match classique. C'est un bon opener, je trouve, quand même, pour entrer dans le pay-per-view, mais bon, ça, on est censé avoir les Young Bucks contre Chris Jericho et MJF. Ça devrait être un gros moment de catch. Finalement, c'est un match assez moyen. Donc, on démarre doucement ce pay-per-view. Effectivement, le Meltzer Driver, c'est plus une blague qu'autre chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi il s'acharne à utiliser ce finisher, alors qu'en plus, il s'amuse à reprendre les finishers des autres. Ça, tu fais ça quand tu fais un grand match, quoi, pas quand tu fais un petit opener finalement.
Ouais, c'est ça en fait. Ils ont quand même leur match, c'est tout le temps les mêmes en fait. Hein. Le coup du on arrive à 40, enfin à se battre tous dans le ring parce que tu vois, ça pourrait être justifié en disant bah, mais là ils sont super énervés parce que c'est une fête qui va aller chercher de loin, mais non, mais tous les matchs sont pareils, donc
c'est ça. Bah, c'est le gros problème de ce type de spot fest, hein. C'est une fois que t'as tout fait, et puis toutes les semaines tu fais tout. Donc finalement, plus rien ne paraît impressionnant, tout paraît simple, et c'est bien ce qu'on leur reproche depuis longtemps aux Young Bucks. Hein. Et moi, pour les avoir suivis pendant longtemps, je sais qu'ils peuvent monter des matchs bien meilleurs que ce qu'ils ont proposé là, avec effectivement de la psychologie, une montée scénaristique et tout, mais c'est bon, c'est pas ce qui a été proposé là. Hein. Là, on était vraiment juste sur un déroulé classique, et puis... voilà, une petite figuration de Jericho et MJF pour lancer un segment à Dynamite la semaine prochaine.
Yes.
Voilà. Enchaînons avec une exclusivité All Elite Wrestling, la Tag Team Casino Battle Royale. Donc, il y a 15 équipes. Eh bien, dis donc. 15 équipes qui rentrent toutes les 1 minute 30. Et il faut se passer par-dessus la troisième corde. Il faut passer les deux personnes de l'équipe, d'ailleurs, par-dessus la troisième corde. Et c'est évidemment la dernière équipe qui est encore dans le ring, qui remporte le match. Il y a la clé, un title shot, hein, je suppose.
Oui.
Alors, les participants, tout de go, un peu dans le désordre. Pac et Phoenix, Bear Country, ces deux gros bonhommes, Bear Country. Pac et Ray Phoenix, ça représente un clan qui s'appelle le Death Triangle, c'est ça?
Ouais, le clan avec justement le frère de Phoenix.
Ouais, Penta Zerofir, Penta Gold, voilà. Junior.
Ciro Melo,
les Lucha Bros. Hein. Et Pac, donc l'ancien Neville, la WWE. Les Varsity Blondes, donc c'est Brian Pillman Jr. et un autre gars dont j'ai oublié le nom. Preston Vance et Alan Angels, je suppose qu'ils font partie du Dark Order. Evil Uno et Stu Grayson, donc ça c'est aussi le Dark Order. Peter Avalon et César Bononi. Alors César Bononi, il était à NXT dans le temps, donc il fait équipe avec Peter Avalon maintenant. Il y a les frères Sydal, Matt Sydal et son frère Mike. Matt Sydal, c'était Ivan Bourne à la WWE. Il y a Santana et Ortiz, LAX. John Silver et Alex Reynolds, donc eux, c'est aussi Dark Order, si je dis pas de bêtises.
La troisième équipe des Dark Order, ouais.
C'est ça. The Butcher and the Blade. Les fameux Butcher and the Blade, toujours accompagnés du petit lapin. Il y a Frankie Kazarian et Christopher Daniels, les vétérans. Private Party, les grandes stars de la AEW. Les fils de Billy Gunn, Austin Gunn et Colton Gunn. Les Natural Nightmares. Donc ça, c'est Dustin Rhodes et Cutie Marshall.
Ouais.
Et Luchasaurus et Jungle Boy, qui sont accompagnés toujours de la petite fille, là, Marco Stunt. Donc, combien de temps ça a duré, cette chose-là ? Savoir que c'est un beau bordel pendant longtemps. Ce qu'on retiendra surtout, c'est que il y a Cutie Marshall qui s'élimine lui-même. Il s'engueule avec Dustin Rhodes. Je suppose que ça fait partie...
Ouais, parce qu'il a éliminé les Guns qui étaient dans le même clan, dans le clan Rhodes, en fait.
Donc, voilà. Il y a tellement de clans qu'on ne sait plus où aller. 17 minutes 49, non, ça ne passe pas du tout ça. Je vais finir par trouver. Donc, un gros bordel. 26 minutes 45, bouton. Voilà, pardon.
Ah là, voilà. Une vraie durée de Battle Royale, là.
On y arrive. Ce que je dirais, c'est qu'évidemment, le Dark Order, comme ils ont trois équipes dans le bordel, bah, ils font pas d'alliance. Comme
bah,
ça,
ils
sont malins. Donc, comme ça, ils ont aucune chance de gagner le match. Il y a un super spot tout pourri là où Marco Stunt il fait un Hurricane Rana sur Evil Uno. Voilà, mais Evil Uno ne tombe pas. Alors, il se précipite en courant contre le poteau. C'était rigolo. Sinon, ouais, non, rien de spécial. On termine avec. C'est qui le finish chez Pac ? Non, il y a...
Il y a les deux de Pac et... Comment il s'appelle ? Et son coéquipier.
Ray Phoenix.
Ray Phoenix et le petit gars de... des dinosaures, là.
Des dinosaures, donc Jungle Boy.
Jungle Boy, voilà. Oula, c'est un peu dur.
Voilà. Ouais, on a du mal. Hein, mais on n'est pas très au point hein, sur la All Elite Wrestling. Donc, la fin de match est plutôt pas mal. Hein. Pac qui déroule. Il y a aussi un joli... un joli déroulé de Ray Phoenix qui va encore une fois faire son spot où il se jette dans le public là à moitié. Alors il avait blessé sa patronne à Triple Mania en faisant ce truc là. Ça lui a pas servi de leçon. Bon après le premier rang hein, qui dans le public c'est des catcheurs donc je pense que tout ça était prévu. Mais il va finir par se tuer, hein, faire ce genre de truc. Ray Phoenix déjà qui se blesse souvent. Bref, c'est la victoire de Ray Phoenix qui reste seul sur le ring et donc c'est Pac et Ray Phoenix qui gagnent le title shot. Il y a eu quand même voilà, une belle défense de Jungle Boy mais ça n'a pas suffi. Je sais pas si tu as noté autre chose dans le match, j'ai vraiment rien qui ressort hormis que le frère de Matt Sydal il est vraiment pas bon.
Ouais, je connaissais pas celui-là, j'ai pas eu envie de plus le connaître.
Voilà, j'ai trouvé qu'il n'y a aucune... En fait, quand ils arrivent dans le ring, ils ne déroulent même pas leur catch, les équipes qui débarquent. Donc, il n'y a personne qui est sorti grandi, je trouve, du truc, hormis éventuellement César Bononi, qui était un peu la powerhouse.
Ouais.
Mais vraiment, il se fait éliminer comme une merde aussi.
Ouais, non, mais effectivement, c'était pas... Il n'y a pas de... vraiment marquant, si. Ray Phoenix, c'est quand même un peu marquant sur la fin, quoi, parce qu'il a 2-3 spots de malade mental.
Mm.
Mais sinon, le reste, c'est plutôt sage. Alors moi, j'ai trouvé quand même que c'était un poil mieux réalisé que la dernière Battle Royale que j'avais vue à l'AEW. C'était pour la bague de je sais plus quoi. Mm-hmm. Au moins, ils filmaient les bonnes personnes qui se faisaient éliminer et les personnes qui avaient des actions. Donc, c'était comme un poil plus lisible. Effectivement, il y a 2-3 botches pas terribles. Ce qui m'a marqué, surtout, c'est que... Ils ont l'idée de mettre un compteur en permanence, tu vois, de la minute 30 qui déroule. Ce qui, pourquoi pas, à la limite, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça les oblige vraiment à être pile poil calés dans le timing parce qu'ils ne peuvent pas truquer les compteurs comme le fait la WWE. Mm-hmm. Pourquoi pas, à la limite, tu vois. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne mettent pas un compteur d'équipe qui rentre. Et donc, du coup, moi, quand la dernière équipe est rentrée, bah, je ne savais pas que c'est la dernière équipe, tu vois. Et c'est un moment où ils font. Ah ouais, et au fait, on a tout le monde qui est dans le ring. Ah bah, merci de prévenir. On n'attend plus. Mais bon, j'aurais dû m'en douter vu qu'il n'y avait plus le compteur, mais c'est vrai que je faisais plus attention du coup. Mais voilà, quoi, c'était un. Voilà, si une petite remarque pour améliorer les choses, s'il m'écoute, la prochaine
Voilà.
fois, mettez un compteur d'entrée, comme ça on saura que la 15e équipe est entrée et on se posera plus la question. Mais voilà, sinon, bon, bah, c'était pas si mal. Tu vois. Je m'attendais à pire parce que la dernière Battle Royale m'avait tellement déçu que là, j'étais plutôt satisfait. Puis un beau vainqueur, même si Pax se jette un peu tout seul dehors pour aider Jungle Boy, mais sinon,
Ouais.
c'était quand même un beau vainqueur, quoi.
Ouais, c'est vraiment sauvé par le segment final, moi je trouve. Le petit affrontement. Alors, je comprends pas trop pourquoi on met Pac en équipe avec Ray Phoenix. Parce que c'est à peu près le catcheur le plus intéressant du roster. Avec, voilà, c'est des mecs qu'il faut les mettre en solo, quoi. Phoenix. Pac
Bah, je pensais qu'ils allaient
et.
chercher Omega, moi, tu vois, mais a priori, non.
Ouais, bon, bref, c'est leur choix. Donc, bah, ils iront affronter les Young Bucks. Hein, ça fera sûrement un super match, ça, quand même. On espère, s'ils font pas un Spotfest habituel. Ouais. Donc voilà, bah ça c'était la Battle Royale Tag Team. On a une petite interview de Paul White, backstage, qui nous donne un petit indice sur qui sera le nouvel arrivant mystère, hein, qui est censé être du niveau d'un Hall of Famer. Paul White, je vous rappelle que c'est le Big Show, hein, qui vient de signer à la All Elite Wrestling. Dans le public, Paul Walter Hauser, je ne sais pas du tout qui c'est, DDP et Al Snow, avec des masques, donc on ne les reconnaît pas.
On reconnaît bien leurs sourcils.
On reconnaît bien leurs sourcils, voilà. En tout cas, ça fait dire de savoir qu'il y a des catcheurs à la retraite qui sont dans le public de la All Elite Wrestling.
Comme quoi, ils sont pas que dans le ring.
Exactement. Il y en a un peu partout. Alors, un petit vidéo package pour nous expliquer qui est Ryo Mizunami. Et quelle est la rivalité avec la championne Hikaru Shida, puisque tout ça s'est passé dans une autre fédération. On nous explique donc que Ryu Mizunami, enfin du moins que Hikaru Shida n'a jamais réussi à battre Ryu Mizunami qui avait pris sa retraite et qui revient, hein, pour cet ultime match. Donc encore une retraitée, hein, dans le ring. Donc derrière, on a le match qui est trop long, moi je trouve. Et qui se termine par la victoire de Hikaru Shida avec un enchaînement de 3 ou 4 coups de genou dans la face de la vétéran. Ça a duré un quart d'heure. Moi, je voyais ça plus long. Bon, rien de dégueulasse, mais rien de. C'est très anecdotique comme match, j'ai trouvé.
Ouais, après je trouve que par rapport à ce que fait d'habitude la AEW au niveau des filles, c'est quand même largement au-dessus en fait.
Ah ben oui.
Alors forcément c'est des japonaises, donc ça manquait un poil de psychologie. C'était je te tape dans la gueule, tu me tapes dans la gueule, je te tape dans la gueule. Un peu tout du long. Mais bon, je trouve que ça s'est regardé parce que comme tu disais, c'est une vétérane sortie de sa retraite, bah, j'ai trouvé qu'elle avait des bons restes, la Rio là. Elle était plutôt, en plus, elle avait un style plutôt physique qui contrastait un peu avec la championne. Donc c'était, ouais, j'ai plutôt moins apprécié ce match-là. Et c'est surtout parce que je repensais à toutes les purges que je m'étais tapé de catch féminin dans les shows précédents de l'AEW. Et du coup, j'ai plutôt apprécié ce match-là.
Ouais, c'est vrai que ça change d'un Britt Baker, Thunder Rosa. Là, on a vraiment deux catcheuses qui se connaissent, qui ont dû faire ce match-là déjà une paire de fois. Et bon, on nous explique d'ailleurs que chaque fois où elles sont appontées, ça s'est terminé sur des matchs nuls. Et donc là, c'est l'ultime victoire d'Hikaru Shida. C'est quand même dommage d'utiliser des rivalités qui viennent d'autres fédérations, surtout quand ça vient d'un autre pays en plus. Mais bon, il faut ça si tu veux proposer du bon catch féminin à la All Elite Wrestling, parce que sinon il n'y a personne qui a le niveau, quoi. Donc c'est pas mal, mais c'est quand même complètement anecdotique. J'ai oublié de parler de la fin du match, enfin de l'après-match plutôt, où il y a Nyla Rose qui débarque avec Vicky Guerrero.
Oui, mais c'est pas
Voilà.
un manque.
Oui, voilà, elle tabasse Hikaru Shida, et puis finalement il y a Thunder Rosa qui arrive et qui fait peur à tout le monde. Alors l'ironie, il y en a généralement à chaque fin de match dans les pay-per-view, hein. Là, on
Ouais,
a.
et puis en plus là, en l'occurrence, c'est celle qui fait fuir tout le monde. Elle fait 50 kilos tout mouillé, alors qu'ils étaient trois dans le
Ouais.
ring. Un peu bizarre, quoi.
Ouais, non, ça tient pas debout, c'était un peu ridicule, hein. Ils sont encore tapés à côté, hein, sur ce coup-là. Puis je suis pas vraiment enthousiasmé de revoir un match avec Thunder Rosa, quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment le niveau. Mais bon, c'est sympa de voir un peu de Joshi, hein, finalement. Donc, la suite des opérations. On nous annonce Double or Nothing pour le 30 mai. On a hâte. À Jacksonville.
Oui.
Alex Marvez est dans les vestiaires avec, enfin dans les coulisses avec Chuck Taylor et Orange Cassidy, puisque le match suivant ça va être Orange Cassidy et Chuck Taylor contre Miro et Kip Sabian. Miro, je vous rappelle que c'est Rousseff. Rousseff qui est le garçon d'honneur de Kip Sabian. Il y a eu un mariage, ça a été gâché par Orange Cassidy et Chuck Taylor. Ce soir, on va régler les comptes, et pas plus tard que tout de suite, puisque Rousseff débarque avec Sabian et ils attaquent Chuck Taylor et Cassidy, qui est, alors Orange Cassidy, il est explosé sur les espèces de caisses là, de rangement. Alors c'est super parce que Rousseff, il parle à la caméra et il dit « Tiens, lancez ma musique maintenant ». Et puis la musique est lancée, il arrive au ring entraînant Chuck Taylor qui en sent. Il lui dit « Voilà, je t'avais prévenu. Tu vas souffrir, tu peux tout arrêter maintenant, vas-y, dis que t'abandonnes, dis-le. » Et Chuck Taylor au micro, il dit allez, lancez la
ring, lancez the bell.
La ring the bell, voilà, tout simplement. Et le match commence, et donc bah, on a un match finalement entre pour l'instant Chuck Taylor hein, qui se fait démonter par Rousseff et puis par Kip Sabian. Finalement, Cassidy revient dans le ring. Bon, il va dérouler un petit peu ses trucs habituels, là. Il va faire aussi son petit spot avec les mains dans les poches. D'ailleurs, il a un petit peu de mal à mettre les mains dans les poches. Mais bon, ça ne suffira pas. Ça dure 7 minutes 51. Et Rousseff place Chuck Taylor dans sa prise de soumission habituelle. Et Chuck Taylor finit par taper. Il y a eu un moment aussi où Rousseff a poussé son adversaire, Chuck Taylor, je crois, sur Penelope Ford, hein, la copine de Kip Sabian, la femme de Kip Sabian.
Oui.
Donc, dans la suite des opérations, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer, parce qu'ils n'étaient pas trop contents. Mais bon, Rousseff, il s'en fout. Hein. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ?
Ouais, c'était bon. C'est... Alors, Rousseff en destructeur, il est toujours plutôt sympa à suivre. L'avantage, c'est que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Donc, c'était pas trop... on n'a pas trop eu le temps de s'ennuyer.
Mmh.
Le finish du match avec Rousseff, qui finalement est tellement un monstre destructeur, qui est même prêt à sacrifier la copine de son pote, bon, c'est peut-être pas mal. Il faut voir s'ils arrivent à jouer là-dessus les semaines suivantes, à justement permettre à Rousseff de partir en solo et de se détacher un peu de tous ces losers. Quoi, parce que c'est vraiment du fond de carte. Là,
c'est le bas de tableau. Hein.
Et ça, c'est très bas. Quoi. Donc si on veut qu'il aille chercher un peu plus haut, il faudrait qu'il se détache un peu de tous ces gars-là. Et donc, pourquoi pas. Voilà, c'était, on va dire que c'était adapté en termes de timing, ce qui fait que ça va pas plus long, ça aurait été chiant.
Moi, j'ai trouvé que c'était déjà trop long. Quoi. Je pense que Rousseff, il aurait dû les éclater en 5 secs et que c'est sur lui qu'il faut capitaliser et pas sur... Je veux dire, ça ne servait à rien d'essayer de faire briller Chuck Taylor qui ressemble à rien dans le ring. Pour Orange Cassidy, je pense qu'on a fait le tour du personnage. Hein. Et Kip Sabian, il sert à rien. Donc, faut se servir de ce truc comme ça pour mettre vraiment over Rousseff, taper un grand coup là sur la table. Voilà, donc j'espère effectivement qu'ils vont partir sur un bon push de Rousseff qui va se libérer un peu de cette bad card là ils sont rigolos hein, mais ça fait pas très sérieux dans un ring quand même.
Non, et puis alors petite parenthèse sur Orange Cassidy que je n'aime pas trop, j'ai déjà répété plusieurs fois en parlant de l'AEW. Je l'aime pas trop, mais c'est dommage parce que finalement il a quand même des moves de catch pas si mal. En s'épaississant un peu, il pourrait être pas mal, tu vois, parce qu'il est pas grand, mais bon, t'en as tué, t'es pas grand avec des bonnes épaules et qui fait le taf. Mais il faut, enfin, après, il peut faire toute sa carrière comme ça, les mains dans les poches, à faire le Golio, quoi, mais il y a peut-être autre chose à faire avec lui, quoi.
Bah oui, c'est ça, non, mais il a pas un physique de catcheur, hein. Déjà, c'est difficile, Chuck Taylor, alors tu mets lui en plus. Merci bien. Je suppose que l'autre était malade, là, Trent.
Il est blessé, je crois.
Ouais, il est tout le temps blessé, Trent, hein, de toute façon. Ouais, non, comme tu dis, on peut pas tout le temps ressortir la même routine que ou alors voilà, il fait une carrière à la Art Truth, quoi.
Oui, voilà. Après, faut assumer. Et encore, Art Truth, il a eu des passages sérieux.
Ouais.
Où ça change un peu, tu vois. Mais il a fait ça en toute fin de carrière, le bouffon à 100%. Là, il a même. Il a
Cassidy. Ok, Cassidy, là, il fait tout le temps le bouffon. Mais en plus, je le trouve pas si bon que ça, moi, dans le ring. Hein.
J'ai eu des matchs où il a fait des moves sérieux. Notamment, je crois que c'était contre Cody Rhodes ou une connerie comme ça. Je me dis, bah, en fait, il s'est caché, ce garçon. C'est juste qu'il.
Ouais,
il peut faire. Et puis non, derrière, hop, il remet les mains dans les poches, il fout ses coupes de bidon, puis c'est mort, quoi.
Voilà, bon, c'est comme ça, c'est Orange Cassidy. Voilà, on espère qu'ils vont un peu capitaliser sur Rousseff. Hein. Avançons. Hangman Page affronte Matt Hardy. Big money match. C'est-à-dire que celui qui gagne, il gagne, je crois, un trimestre de revenus de l'autre personne. Ça, c'est original. Hangman Page a piégé Matt Hardy en lui faisant signer un contrat un peu mystère comme ça. Donc, bon, on a un match classique entre Hangman Page et Matt Hardy. Il y a les private parties qui débarquent à un moment donné pour essayer de foutre le bordel, mais ça suffit pas. Il y a le Dark Order aussi qui vient. Le Dark Order est du côté d'Hangman Page, en fait. Et finalement, c'est la victoire de Hangman Page, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Il célèbre sa victoire avec le Dark Order. Bon, je trouve que c'était pas mal, moi. Matt Hardy, plutôt en forme, un match classique, je trouve plutôt bien foutu.
Ouais, alors oui, effectivement.
Vas-y.
Hangman Page est soutenu par le Dark Order, mais pour l'instant, il se refuse sur les rejoindre. Mais bon, il y a une espèce d'amitié entre eux qui s'est créée. Donc, ils ont picolé des bières à la fin. Moi, j'étais pas du tout intéressé par ce match-là. Je l'avouerais que moi, Matt Hardy, pour moi, il devrait prendre sa retraite des rings et être juste manager, ou je pense qu'il serait pas mal en manager ou en figure d'autorité ou n'importe quoi. Un mec qui, de temps en temps, viendrait dans le ring, mais vraiment de manière exceptionnelle, chez exceptionnelle. Là, le voir face à Hangman Page, qui, pour le coup, me plaît plutôt comme catcheur. Je trouve que lui, on parle de terre de physique de catcheur. Lui, il a la vraie physique de catcheur. C'était un match c'est propre mais sans intérêt pour moi, quoi. Même l'enjeu de tu vas prendre mes gains, enfin ça a aucun enjeu en fait. Voilà, quoi,
c'est pas du tout crédible, hein. trucs à l'ancienne, ça, voilà. Bon, moi j'étais assez content de voir un match à l'ancienne, on va dire. Je veux pas ça a très peu d'intérêt, hein, mais au milieu de tout le gloubi-boulga qu'on a eu, je trouvais que c'était assez bien. Alors, je comprends pas l'histoire avec le Dark Order, là, mais...
Le Dark Order, ils ont le cul entre deux chaises. C'est un clan supposé dominant heel.
Ouais.
Sauf que ils perdent leur leader qui décède, et du coup, c'est compliqué de les faire heel maintenant, alors que t'as tous les fans qui les regardent avec les yeux tout émus en disant « Ah, c'est les... » C'est les successeurs de Brody Lee. Ils ont envie de les aimer, mais en même temps, c'est un clan heel. Et puis, il leur manque un vrai leader. Et est-ce que ça pourrait être Hangman Page? J'ai l'impression que, par exemple, il a joué Cowboy Solitaire, ce qui peut être pas mal aussi pour lui. Mais c'est vraiment le clan où t'es dans la merde, là, avec malheureusement ce départ de Brody Lee. Et ça, je pense qu'ils n'osent même pas vraiment le remplacer, parce qu'ils se disent que ça serait vis-à-vis de lui, ça serait bien, enfin voilà, ils sont emmerdés.
Il ferait mieux de dissoudre le truc
en plus, les gars gardent un outfit en hommage à Brody Lee peut-être, ou en promouvoir un d'entre eux, tu vois, notamment le Ten, qui je sais plaît beaucoup à Tonton, qui a un physique assez impressionnant. Mais bon,
moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de catcheurs masqués à la All Elite Wrestling, mais bon. Au moins, on a évité le fils de Brody Lee au commentaire. Si j'ai vu Chamania, il y était. Alors, non seulement il est au commentaire, mais il est en slip au commentaire. Alors, c'est un peu perturbant. Voilà ce qu'il en était de ce Hangman Page contre Matt Hardy. Au moins, Matt Hardy n'a pas frôlé la mort.
On peut s'en féliciter.
Voilà. Alors, c'est l'heure du match de l'échelle. Les gens se battent pour un donut géant en or.
Mais oui, je me suis fait la même réflexion. Une bouée géante.
Voilà, une bouée géante. c'est le Titanic, le naufrage, il faut sauver les meubles. Il y a un title shot pour le TNT Championship, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, dans le match, Cody Rhodes, Lance Archer, qui est accompagné de Jack Roberts, Penta El Zero Mierdo, Ivan Page, qui est l'invité mystère, hein, qui est l'arrivant mystère de ce ladder match. Hein, c'était annoncé donc, qu'il y aurait une nouvelle arrivée à la All Elite Wrestling. Alors, pas le Hall of Famer, mais un autre catcher. Donc, c'est Ivan Page, Olego Ivan Page, qui était dans l'équipe The North à Impact, qui avait beaucoup parlé de lui, qui vient de la Evolve aussi. Il a beaucoup catché à la Evolve. Moi je le redécouvre, je ne l'avais pas trop vu à Impact, je le connaissais à la Evolve, il était beaucoup plus gros que ça, là il est bien plus affûté, c'est plutôt un bon catcheur charismatique, je ne sais pas si c'est la meilleure option de le faire débarquer là, mais bon. Il y a aussi un certain Max Caster, qui je crois fait partie d'une tag team.
Ouais, il fait partie d'une équipe, je ne saurais plus te dire le nom, d'une jeune équipe qui est arrivée cette année, ou fin de l'année dernière. Et...
Top Flight, c'est pas ça ?
Peut-être ça, ouais. Et qui arrive en rappant.
Voilà, c'est ça. Bon, ça, j'ai zappé hein, quand même. Il utilise sa boombox hein, pendant le match. Il y a aussi Scorpio Sky hein, qui est là dans le match. J'ai oublié de le mentionner. Oui. Donc, bah, y a plein de spots de l'échelle hein, qu'on a déjà plus ou moins vu. Il y a Lance Archer qui vend très mal tout. Hein. Je ne sais pas si... ce que tu en as pensé. Il n'y avait pas grand monde qui savait... gérer un match de l'échelle, j'ai l'impression, dans ce truc-là. Bon, il y a quelques spots intéressants quand même, avec notamment un destroyer de Penta Zero Fear. Il y a Cody Rhodes aussi qui se prend un gros chute là, sur les échelles. Il est écarté du match pendant un bon moment. Il y a Jack Roberts qui va mettre une clothesline à Ivan Page et le sécher. Et finalement, ça se termine par Scorpio Sky qui fout un coup de chaise à Penta. Cody et le même Scorpio qui font la course à l'échelle, mais finalement Scorpio Sky met un bon coup de poing dans la gueule à Cody qui tombe de l'échelle et c'est lui qui va récupérer le donut géant. Donc voilà, victoire de Scorpio Sky.
Oui.
Qu'est-ce que t'as... Oui, voilà.
Il y a eu...
Oui.
Vas-y.
Il y a eu un frog splash aussi de Scorpio Sky du haut de l'échelle sur Caster.
Ouais, voilà, de temps en temps, il passait un petit move impressionnant, effectivement, avec pour réveiller un peu tout le monde. Ouais, je suis partagé parce qu'effectivement, dès que j'ai vu le gain du match, c'est-à-dire le donut géant, j'ai tout de suite eu où je me suis dit, oula, ça fait pas très sérieux tout ça. Et du coup, après, ça m'est à chaque fois on le revoyait, je disais, non, mais ils vont pas décrocher ça, quoi, c'est nul. Et donc, du coup, à chaque fois, ça perdait de crédibilité dès qu'il filmait, en fait. Et puis, en plus, effectivement, t'as, dès le début, Cody qui se blesse au bras. Je viens de faire des guillemets avec mes doigts, mais forcément, en radio, on l'entend pas. Et qui, du coup, reste en disant est-ce qu'il va revenir ou pas revenir. Mais contrairement à ce qui se fait d'habitude, là, il est resté dans le champ de la caméra, tout au fond. Donc, on le voyait, là.
C'est pitié, ça aussi.
Qui parlait et puis qui disait non, mais il faut pas revenir. Mais si, je vais revenir et tout, pendant tout le match. Et pour le coup, ça me sort un peu du truc parce que effectivement, déjà, tu sais qu'il va revenir parce que bah, c'est du catch. Et donc, quand tu te blesses en début de match, c'est pour revenir. Mais alors, si en plus, tu es au fond de la caméra en permanence, là, tu es sûr de jamais l'oublier, quoi, Cody Rhodes.
Ouais, carrément. Ouais.
Et puis, du coup, comme il vendait en plus sa blessure, bah, il y a eu notamment son stunner des cordes là, qui botche complètement ce qui. Normal, il a un bras collé contre le corps. Donc, il saute avec son bras collé, il peut pas attraper la tête de Zero Miedo qui fait semblant comme de prendre le coup, qui vend comme le coup. Donc voilà, c'est un petit peu. Voilà, il y a eu quand même pas mal effectivement d'approximations. Comme j'avais bien aimé Ray Phoenix, j'ai bien aimé Penta Zero Miedo qui pour le coup semble vraiment très au-dessus de ce qui est des autres dans le ring.
Ouais, ouais.
Et avec un gros physique en plus hein, pour un luchador, c'est un luchador qui en impose. Et puis voilà, le champion c'est Scorpio Sky qui manifestement est revenu un peu dans la lumière ces dernières semaines, mais qui pour moi reste le gars dont on voyait tout le temps le résultat passer en bas là, tu sais, quand il nous donne le résultat de Dark en disant ah Dark il s'est passé ça, je voyais tout le temps Scorpio Sky mais je le voyais jamais catcher. Voilà, pour une fois je le vois catcher directement, hop, challenger au titre TNT, grand bien lui fasse. Ça sera, je crois, du coup, mercredi de la semaine prochaine.
C'est ça.
Ou cette semaine. Non, c'est ce mercredi. C'est ce mercredi, pardon.
Voilà. Donc, face à Darby Allin.
Oui.
On espère quand même une victoire de Scorpio Sky. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que quand tu fais un push de quelqu'un, à la base, tu le donnes du temps d'antenne à la télé. Donc, si les mecs ils se font pusher à Dark, ça peut pas fonctionner du tout puisque personne regarde Dark. Donc,
Je pense pas, non.
Si c'est sur YouTube. Donc voilà, le mec débarque, personne ne le connaît et puis t'es censé être derrière lui. Hein. C'est quand même délicat. Pourquoi il a beaucoup de talent hein, sur Poskai hein,
il démérite. Ouais, on a toujours dit le plus grand bien. Tu vois, c'est, voilà, je te dis, c'est comme plusieurs mois maintenant que je regarde, bon, pas régulièrement, mais comme assez souvent les IW, c'est la première fois que je le vois catcher, quoi.
Ben voilà, hein, t'as beau regarder Dynamite, tu le connais pas le mec, donc c'est quand même assez bizarre. Mais bon, ça c'est des idées. Tu penses que c'est des bonnes idées sur le papier, hein, en disant les mecs ils vont gagner leur droit d'être à Dynamite à Dark. Hein, tu te dis c'est réaliste et tout ça, mais non, c'est pas comme ça que tu pushes des gens à la télé. Hein, c'est un show télé, Dynamite. C'est pas, on n'est pas dans une fédération sportive. Alors il y a aussi, alors je sais pas si c'est dans ce match là ou si c'était avant, mais il y a Jack Evans qui essaie d'interférer dans les matchs. Je crois qu'il a une rivalité avec un des mecs du Dark Order.
Oui.
Mais à chaque fois c'est il le filme pas ou il le filme trop tard. Donc du coup.
Oui bah c'est là en fait. Il veut aider bah, justement le gars avec la boombox et t'as le tête du Dark Order qui intervient pour lui casser la gueule. Mais effectivement, d'accord. Ça n'avait vraiment qu'un intérêt très très limité sur cette affaire.
Ouais, parce qu'il y a aussi un truc qui se passe pendant la Battle Royale. Il y a Jack Evans qui débarque aussi à un moment donné. Je crois qu'il élimine le mec de Ten, mais les commentateurs le voient pas. Ils savent pas nous expliquer pourquoi. Et du coup, on a un vague mouvement de caméra où on arrive à discerner que c'est Jack Evans, mais on n'est même pas sûr, quoi.
Ouais, et c'est alors pour rebondir un peu sur ce qu'on disait pour Scorpio Sky, c'est un peu le souci en fait, je trouve personnellement. De l'AEW, c'est qu'ils veulent trop mettre tout le monde en valeur en même temps. Et donc, du coup, il y a plein d'équipes, plein de gars qui sont plein de rivalités. Mais du coup, tu as des rivalités entre des gars que tu vois jamais catcher. Donc, c'est pas. Tu t'accroches pas forcément, quoi. Effectivement, Jack Evans qui vient là, c'est un kidam, tu vois. Pour un mec qui suit pas régulièrement, je comprends que pour le fan hardcore de l'AEW, on sait qui c'est, nanana. Je l'ai vu une fois il y a 3 semaines à Dynamite, je sais qui c'est. Pour un mec qui va regarder occasionnellement, bah ok, t'as une rivalité entre deux gars que tu connais pas.
Exactement. Voilà, bon, bah ça c'est encore une fois, sur le papier, tu penses que c'est une bonne idée de donner des rivalités à tout le monde, mais concrètement, ça se traduit par des trucs, par un joli Globi Bulga. Enchaînons. C'est l'arrivée du Hall of Famer Mystère qui vient signer un contrat.
Ah, suspense!
Ah, on pensait que c'était Kurt Angle hein, qui avait tweeté une petite vidéo où il remettait ses bottes et tout ça. Mais non, c'était l'autre. Ouais, il y avait deux suspects.
Deux favoris.
Numéro un. C'est Christian Cage, comme on l'appelle quand il est dans l'Indie, qui débarque. Il a un nouveau t-shirt, nouvelle catchphrase, c'est Outwork Everyone.
Oui.
Et on a l'impression qu'il regrette déjà d'être venu. Hein. Non, je suis mauvaise langue.
Ouais, non, je pense que ça... Il avait le virus du catch qui le reprenait et il avait probablement pas sa place à la WWE, je pense. Enfin, en tout cas, il comptait pas sur lui comme un gars régulier, plus comme un one-shot, bah, comme Rumble. Et donc, c'est peut-être l'occasion pour lui de catcher régulièrement. Moi, c'est un mec que j'aime bien, Christian. Je trouve plutôt intéressant. Et notamment, bah, tu vois, dans un match à échelle, un mec comme Christian, là, il aurait tout mis le truc de guerre, quoi. Ça aurait été propre.
Exactement. Il aurait pas eu de soucis là-dessus. Le ring général.
Voilà, une grande intelligence de ring, de gestion de dégâts. Donc, ce sera plutôt. Moi, je suis plutôt content. Christian Cage, effectivement, donc qui reprend son pseudo. Je crois que c'était son nom initial, hein, parce qu'il avait. Il me semble avoir vu une interview où il disait qu'en fait, il l'avait fait en fusionnant les noms de Nicolas Cage et de Christian Slater, qui étaient ses deux acteurs préférés à l'époque. Enfin, tu vois, c'est comme quoi il y a des trucs parfois qui arrivent comme ça. Et puis voilà, pour moi c'est une belle prise de l'AEW. Alors je sais que pas mal de gens sont déçus, mais bah faut se rendre compte quand même de ce qu'est l'AEW et où ils en sont par rapport à la WWE. Moi je pense que c'est effectivement c'est un probable futur Hall of Famer WWE. Très très surprenant qu'il soit pas ne serait-ce qu'en équipe. Et puis voilà, c'est genre c'est un mec multi-champion du monde qui a été un mec important de la WWE qui a eu des matchs à WrestleMania, qui était important à la TNA. Enfin, je sais pas n'importe qui, Christian Cage. Alors, c'est sûr que c'est pas un jeune premier. Mais c'est une belle prise de guerre, je trouve, que plutôt, voilà, qui leur donnera un peu de popularité.
C'est ça. Bon, en tout cas, ils sont encore dans les pas de la TNA de l'époque, hein. Christian Cage, Sting.
Ouais, avec 10 ans, 15 ans de plus, quoi. C'est un peu ça le souci, quoi.
C'est un peu le problème. Mais non, c'est une belle prise. C'est une belle prise, Christian. Il peut faire du bien à la compagnie. Voilà, on espère qu'il ne met pas sa santé en danger. Mais voilà, visiblement, la WWE, ils n'avaient pas l'intention de faire grand-chose avec lui. Autant qu'ils viennent ici essayer de faire quelque chose. Il y a du boulot.
Ouais, espérons qu'il cache plus que Edge à la WWE. Ça serait. Bien sûr, tout le temps ne mettant pas en danger sa santé, mais bon. Ouais. Vu la durée du Rumble, je pense qu'il est quand même en état de faire des matchs de quelques minutes.
Ouais, et puis c'était moins. Je pense que c'était moins grave quand même. Ce qu'il avait, c'était surtout des commotions cérébrales. Ouais, c'est pas que voilà. Edge qui avait des trucs un peu chelous, quoi. Voilà, on croise les doigts pour la suite. Allez, c'est l'heure du match cinématique. Là, on a droit à notre petit match cinématique des familles. Période de Corona, hein, toujours. Sting et Darby Allin, le champion TNT, affrontent Brian Cage et Ricky Starks, qui font partie de la team à Taz. Donc, ça se bat dans les vestiaires, enfin dans un hangar désaffecté. C'est plutôt joliment filmé. Plutôt efficace, il y a des gros spots là où Darby Allin va traverser une espèce de porte vitrée comme ça là qui est désossée. Il y a une grosse descente du coup d'un étage à l'autre là de Darby Allin Brian Cage, ouais. Ricky Starks aussi, il est plutôt convaincant, plutôt badass. Mais c'est bien Sting qui gagne le match, malgré quand même l'intervention du reste de la team de Taz. Hobbs, qui vient avec un masque, alors qu'on sait très bien que c'est lui, pas très bien compris, et l'autre qui s'appelle Hook, un asiatique, je suppose qu'il doit être chinois. Bon, ils servent à rien, hein, au final, puisque c'est la victoire de Sting. Ouais, c'était plutôt mieux que ce que propose la WWE habituellement dans ce genre de truc.
Alors, dans le cinématique en lui-même, oui, il y avait quelques spots vraiment impressionnants. Par contre, je trouve qu'il y a eu un choix catastrophique la part de l'AEW, c'est de mettre des commentaires en direct dessus, quoi.
Exactement.
Et alors, quand j'ai vu, en fait, tu as tout le segment où ils arrivent dans l'entrepôt, tout ça, et c'est commenté en direct par Taz et par machin en disant. Ah, t'as vu, il rentre dans l'entrepôt. Ah, t'as vu, il est venu en skateboard. Ah ouais, mais j'espère qu'il va se faire péter la gueule. Et ça, pendant tout du long, il commente tout le temps. Et moi, ça m'a sorti du truc. En fait, ça m'a. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à rire, en fait, en regardant le show.
Tout le truc, en fait, ouais.
Et j'ai vraiment regretté parce que quand j'ai vu le replay, j'ai vu tous les passages impressionnants. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a eu ça et que c'est impressionnant. Mais j'arrivais même pas à le prendre au sérieux, tellement qu'il y avait de commentaires qui me sortaient du truc. C'est un choix catastrophique que j'ai trouvé. Parce que sans ce truc-là, il aurait effectivement pu rentrer dans les bons cinematic match. Et moi, du coup, je lui mets un carton rouge direct parce que j'ai pas apprécié, parce que j'étais déconcentré par les commentaires. Tout pourri, parce qu'il est naze en plus aux commentaires. Il dit, oh, mais là, il lui a mis un coup, mais j'espère qu'il va se reprendre. Hein. Catastrophe.
Taz, il est toujours à côté de la plaque. Une grande star de Botchamania. T'as raison. Hein. C'est vrai que ça tue complètement les beaux efforts de réalisation. Visiblement, ils mettent du pognon dans ces trucs-là. Mais voilà, une petite erreur et puis tout bascule. Ils ne sont pas assez loin de la réussite. Alors, ce qui est drôle, c'est que le Wrestling Observer, ils ont sorti un article pour dire que c'était une belle réussite avant même que ce soit diffusé. ça donne un petit peu le niveau du Wrestling Observer à l'heure actuelle par rapport à la All Elite Wrestling.
5 étoiles, je pense.
5 étoiles, ouais. Non, c'est un beau succès titré, hein, comme ça, un beau succès machin. Le truc n'est pas encore passé, les gars. Attendez un petit peu quand même. Ça va se voir au bout d'un moment. Matt Jackson affrontera Ray Phoenix, tiens, Dynamite. C'est annoncé à ce moment-là. Et puis il y a aussi d'autres trucs, mais ça vous verrez dans la baston du mercredi. Parce que c'est l'heure du main event, quand même.
Oh.
Oh. Donc on nous l'a annoncé, c'est un exploding barbed wire match, death match, c'est-à-dire avec des barbelés explosifs, une stipulation qui a eu beaucoup lieu au Japon dans les années 90 plutôt, avec Onita souvent. Moi j'en ai vu un avec le Great Muta contre le Great je sais plus comment. Donc en gros vous avez autour du ring des barbelés qui sont explosifs. Il y a un décompte et au bout du décompte, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, il y a tout qui explose. C'est la folie. Donc c'est Moxley contre le champion Kenny Omega hein, qui défend son titre. Voilà notre main event. Donc évidemment, ils vont essayer de s'envoyer dans les barbelés explosifs. Il y a quand même une partie des cordes qui n'est pas entourée de barbelés. Ça leur permet quand même de catcher un petit peu normalement. Mais sinon, c'est du je te pousse, je te pousse, je te griffe le visage, j'essaye de t'envoyer dans les cordes. Ça se passe comme ça, hein, ce genre de match, généralement. C'est pas là que vous allez avoir le catch le plus le plus spectaculaire, même si, bon, ils arrivent quand même à dérouler un petit peu. Au final, ça s'envoie dans les barbelés, donc ça explose. Alors, il n'y a aucun des deux qui pense à rester dans les barbelés au moment où ça explose. Le gros problème, je dirais que Omega, il porte un t-shirt blanc. Donc, quand il y a des explosions, le t-shirt reste blanc immaculé. Donc, on voit bien que ça n'a aucun effet sur lui. Le barbelé, il accroche même pas les vêtements. On voit bien que tout ça est gimmické. Il y a quand même Moxley qui se fait un blade job au milieu du match pour saigner un petit peu, là, pour rendre ça un peu plus vivant. Il y a un gros spot où ils se font un DDT à l'extérieur du ring sur une planche pleine de barbelés avec des explosifs, mais alors il y a deux pétards qui explosent. La chute est plus impressionnante que l'explosion. Et puis alors donc finalement il y a une intervention des Good Brothers, évidemment, Gallows et Anderson, qui sont normalement à Impact mais qui viennent quand même à la All Elite Wrestling aider Omega, qui sont en clan avec Omega. Donc ça permet à Omega de gagner le match. Et ensuite, ils vont mettre des menottes à Moxley en attendant l'explosion finale, hein, parce que le décompte ne s'est pas arrêté. Là, tous les commentateurs sont en folie, ça va exploser, tout le monde va mourir. Il y a Eddie Kingston qui débarque. Il faut qu'il vienne sauver son ami, donc il n'arrive pas à soulever Moxley, il n'est pas assez fort. Donc il va couvrir de son corps Moxley pour le protéger de l'explosion. Le décompte arrive à son terme. 3, 2, 1. Et il y a deux pétards sur les côtés, deux, trois nuages de fumée. Mais alors, c'est vraiment sur les coins du ring. Et par contre, ça détruit Eddie Kingston qui reste inanimé sur le corps de Moxley. Les services de secours arrivent. Il faut sauver Eddie Kingston.
Il est mort, le pauvre.
Il est mort, le pauvre. Il y a un bison 4 qui a explosé à 3 mètres de lui. Voilà, tout ça est ridicule. On se termine là-dessus. C'est vraiment un ratage complet. Hein. Il faut voir les images si vous ne les avez pas vues. C'est moins impressionnant que l'entrée de Goldberg, quoi, cette explosion en fin de match. C'est vraiment juste des petits pétards sur deux coins du ring et puis un petit peu de fumée, quoi. Donc c'est complètement loupé et on termine ce pay-per-view sur cette image navrante d'un pauvre Eddie Kingston qui apparemment ne l'a pas mis au courant que ça n'a pas du tout marché les explosions, donc il vend jusqu'au bout l'explosion qui n'a jamais eu lieu. Je sais pas, est-ce que tu arrives à défendre ce truc? Il y a beaucoup de gens qui disent que le match était bon avant le ratage complet. Moi j'ai trouvé que le barbelé gimmické ça fonctionnait pas du tout. Il arrivait rien de crédible du début à la fin, quoi.
Ouais, c'est un grand monde de bouffonnerie en fait, j'ai envie de dire. Je vais rejoindre une partie des commentaires en disant que moi là, toute la partie jusqu'à qu'il touche à un barbelé, ça allait. Toute la partie un peu psychologique du attention, tu as de bord, attention, ça fait peur, etc. Moi, j'étais plutôt dedans en disant bah c'est pas mal, ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient fait à WWE avec le feu, en disant bah en fait tu joues sur la peur, en fait la crainte du contact, c'est plutôt pas mal fait. J'ai trouvé qu'Omega pour une fois avait une partition plutôt juste, alors que d'habitude je trouve qu'il fait 3000 tonnes de caisse et que c'est absolument pas crédible. Là je trouvais plutôt qu'il était assez subtil dans son rôle et que c'était pas mal en fait. Et à partir du moment où ils ont commencé à toucher le premier barbelé, là effectivement c'est parti un peu en vrille. Parce que comme tu le dis, le barbelé accroche assez peu. Ils sont obligés de faire du blade job les deux pour rendre crédible le truc. Alors sachant que Moxley le fait de façon à s'ouvrir et saigner comme un porc pendant tout le truc, alors qu'il avait juste effleuré un barbelé à ce moment-là, donc c'est pas trop crédible, et qu'Omega lui va mettre trois plombes à réussir le sien, donc on va rester trois plombes sur Moxley en gros plan en attendant que l'autre fasse son blade job. Les pétards, parce que c'était des pétards, c'était pas très impressionnant. Mmh. Effectivement, comme tu le dis, ça, les mecs ressortaient totalement propres de l'explosion. Puis tu vois bien quand même qu'elle était, enfin que le souffle était orienté pas du tout vers les catcheurs. Alors bien sûr que les mecs vont pas avoir de vraies explosions, on n'est pas totalement con. Mais t'aurais pu faire, je sais pas, ne serait-ce que mettre de la poudre ou je sais pas, un truc qui dégueulasse un peu le truc, quoi, qui fasse plus impressionnant. Les explosions de l'entrée de Kane sont plus impressionnantes que ça. Effectivement, comme disait Goldberg, c'est plus impressionnant que ça. Là, c'était vraiment le niveau zéro. Surtout qu'en plus, tu avais l'arbitre qui était en combinaison nucléaire à côté, où tu disais ça va être des gros trucs, mais enfin voilà. Il faut. Tu peux pas vendre un truc nucléaire et à côté faire des pétards de feu d'artifice de mec qui fait ça dans son jardin, quoi. C'est vraiment pas terrible. Et puis alors le finish cataclysmique, j'ai trouvé. Alors déjà, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris après, hein, c'est je veux bien l'admettre. Il me semblait qu'ils avaient dit le ring explosera au bout de 30 minutes si le match n'est pas fini avant.
Ouais.
Et donc mais du coup pour moi, comme le match était fini avant, au bout de 25 minutes, le ring ne devait pas exploser. Et d'ailleurs, à aucun moment les catcheurs dans le ring pensent-ils qu'il y a un degré d'urgence. Il y a juste Jim Ross qui hurle comme un cochon après nous avoir pourri les commentaires pendant tout le show en disant « Ah, ils vont tous mourir, mais ils sont fous hein !» Alors que, tu vois, c'est le seul hurlé et tout le monde s'en fout autour. Même le gars là, de la direction, là, le pote d'Omega, il s'en fout, tout le monde s'en fout. T'as les Good Brothers qui sont là en tant que heel alors que l'impact précédent, le Dynamite précédent, ils étaient en train de face pour aider les Bucks. Enfin, tu comprends rien. À la fin, Eddie Kingston arrive, mais Eddie Kingston arrive alors qu'il reste une minute. Et donc, il a tout le temps de porter Moxley, essayer de le tirer. Mais non, il fait rien. Il tourne autour en disant « Réveille-toi, réveille-toi » en le soufflant dessus. « Vas-y, vas-y, lève-toi, lève-toi » Et jamais il essaie de le traîner hors du ring. Et puis, voilà, le ratage final avec Kingston qui fait la sieste sur Moxley, qui est mort, qui n'a pas le... Hein, sincèrement, quand l'explosion a eu lieu, je me suis dit, en fait, c'est Omega qui s'est foutu de la gueule de Moxley pour l'humilier.
Ouais. Une fausse explosion. Ils vont se relever, ils vont dire, oh là là.
Voilà, ils sont foutus de notre gueule. Ouais. Mais non, ils ont joué le coup à fond du je suis mort parce qu'il y a eu, effectivement, un pétard qui a eu lieu à 4 mètres de moi. Catastrophe.
J'étais triste pour Eddie Kingston, mais triste. Ils vont lui dire quand même à l'oreille que ça n'a pas marché et tout.
Non. Bah oui, parce que lui, il voit rien, il est couché sur Moxley.
Il y a eu les explosions, il se dit ça a dû fonctionner.
Et tu vois, ils auraient pu faire un truc genre comme les fameux spots avec les gros à la WWE, quand tu as le ring qui s'écroule, ou les cordes qui tombent, ou n'importe quoi. Il n'y a rien. Rien qui se passe.
Alors j'en ai vu un quoi des matchs, enfin j'en ai regardé quelques-uns, mais je vais rarement jusqu'au bout de ce type de match parce que c'est quand même assez ennuyeux. Normalement, t'as des trucs tout autour du ring, au niveau du sol, et quand ça explose, il y a vraiment tout qui explose, donc c'est assez impressionnant. Les mecs se font mal quand même un peu, tu vois, mais ça fait partie du jeu sur un type de match comme ça. Tu veux faire un truc exploding, effectivement, les catcheurs, ils vont se faire un peu mal. Là, tu avais des gros plans sur le dos de Moxley. Il était intact, son dos, quoi. Donc, c'était encore moins spectaculaire que quand ils font un deathmatch normal, entre guillemets. J'ai vu des trucs bien plus violents, bien plus spectaculaires avec Abyss à Impact, par exemple. Là, effectivement, comme tu dis, c'était ridicule du début à la fin. Il y a rien qui était... Je vois pas donc à quel moment ils ont pu se dire que ça allait être impressionnant. Je ne sais pas s'ils avaient répété ou quoi, mais c'était loupé du début à la fin. Effectivement, ils auraient pu sauver les meubles avec une petite décision pragmatique, là, en disant « Bah oui, non, c'était une bonne blague. » Ils pouvaient garder quand même ça. Quand tu montes un spectacle comme ça, tu peux quand même garder à l'esprit que peut-être ça peut merder, hein, les pyros. Donc tu fais un plan B. Là, ils sont ridiculisés. Bon, visiblement, ça choque pas plus que ça les fans hardcore de la All Elite Wrestling. Hein. J'ai écouté un petit peu la défense aussi de Dave Meltzer sur le show. Tout ça n'est pas si grave. Moi, je pense qu'ils se sont ridiculisés quand même. Hein.
Ouais. Après, voilà, on a vu la WWE qui avait eu le cas récemment avec les menottes de Roman Reigns.
Ouais.
Donc, c'était un peu la même chose où ils n'ont pas su justement changer l'histoire. Bah voilà, je comprends aussi qu'en direct, bah tu puisses pas forcément réagir, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un taulier dans ces cas-là qui essaie de. Bah,
ouais.
En plus, la différence, c'est que là, c'est comme tout le match, quoi, qui est un peu ridicule, quoi. Ça qui est.
Puis, ouais,
moi, c'est la première fois que je vois les IW, le public siffler à la fin, parce qu'on l'a pas dit, mais le public a sifflé, hein, en disant, mais c'est quoi cette boucle, quoi.
Ah oui, ça arrive. Alors, c'est dommage, hein, ils avaient l'occasion de taper un grand coup, là, après le naufrage, effectivement, de. C'était Hell in a Cell, hein, où il y avait eu ce problème des menottes. Hein.
Ah non, c'est plus récent que ça, c'est pas le Rumble non, c'est Elimination Chamber. Ah, c'est...
Elimination Chamber.
Non, okay. non, parce que le Chamber c'était Roman Reigns contre Bryan. Non, donc c'était le Rumble.
Ouais. Ok. Ben voilà, donc c'était l'occasion de... de montrer un petit peu ce qu'on savait faire à l'All Elite Wrestling pour damer le pion de la WWE. Mais au lieu de ça, ils ont montré qu'ils sont c'est toujours des amateurs, quoi, au final. Hein. Surtout que le reste du show n'est pas très convaincant non plus. Hormis du fan service, quoi. Hein, si vous aimiez bien Dynamite, bah, vous aimeriez bien ce pay-per-view, je pense. Et encore, je suis pas sûr, hein, parce que effectivement, comme
non,
tu dis, le cinématique match, il est quand même pourri par les commentaires, et le main event, il est ridicule du début à la fin. Moxley, moi, j'avais encore de grandes ambitions dans Moxley, mais il est de plus en plus mauvais, je trouve, hein, dans le ring. Il en fait des caisses. Je l'ai vu récemment à la New Japan là, affronter Kenta pour le titre US de la NJP. Le match était mauvais, comme c'est pas permis. Ils ont tendance à catcher aussi à la All Elite Wrestling, un petit peu comme en house show. Hein, ils en font tous des caisses. Hein. Mm. Ils savent pas trop gérer le fait qu'ils sont filmés. Hein.
Non, c'est ça. Ils ont jamais réussi. Enfin, jamais. Bon, je trouve quand même qu'il y a des progrès par rapport à ce que j'ai regardé au début. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment du mal à se détacher de l'esprit house show, on met tout le monde en valeur, etc. Mm. Et à vraiment faire un show TV, tu vois. Ils commencent à avoir quelques bonnes idées. Là, j'ai vu l'autre jour qu'ils avaient fait un squash. Et ça m'a, et c'est toujours quelque chose qui m'avait choqué, c'est que de n'importe quel jobber a au moins 15 minutes pour le ring, quoi. Mm. Et là, je pense qu'ils commencent petit à petit à prendre des bonnes idées. Alors peut-être qu'effectivement, l'apport de mecs expérimentés comme Sting, comme bah, le Big Show, désormais, ça va les aider un peu
à Christian Cage, ouais, ça peut apporter.
Voilà, ça va les aider justement à ne pas vouloir faire trop plaisir. En fait, c'est ça le souci, c'est que je pense qu'ils ont, c'est un bon fond, c'est de dire, bah, moi, je fais les catcheurs chez moi, je leur laisse du temps pour qu'ils montent leur catch, je les brime pas. Mais si tu veux avoir un show télé efficace, il faut quand même que tu aies un certain cadre, quoi, et un certain rythme. Et c'est souvent ce qui manque, en fait, c'est que t'as trop souvent des longueurs. Là, encore une fois, le pay-per-view, je l'ai trouvé super long, quoi. J'ai eu du mal à accrocher jusqu'à la fin.
J'ai zappé beaucoup de choses, moi.
Mm. Bah, moi, j'ai regardé jusqu'au bout, parce que je me suis dit, bon, je vais participer à la review, il faut que je l'ai vu en entier, mais franchement, c'était dur.
Non, bah, c'est sur les entrées, tu vois, je me suis pas...
Oui.
J'ai pas non plus zappé les matchs, quoi, mais...
Mais par contre, ce qui est bizarre, une dernière chose, c'est qu'ils mettent autant de... visiblement de moyens sur le cinematic match. Parce que pour le coup, s'il n'y a pas eu les commentaires, ça aurait été un bon match. Mm. Et qu'ils en mettent si peu sur le main event, quoi. Là, c'est vraiment étonnant, quoi. Je dis, ne serait-ce que le ring qui s'écroule, ça aurait été bien, ça aurait suffi. Hein, mais...
mm. Ouais. Et voilà, autant de pognon pour mettre Sting over, quoi. Est-ce que Sting, il a besoin de sortir grandi d'un... Enfin, ils essayent d'en faire un peu l'Undertaker de la All Elite Wrestling, donc effectivement, il va... Ils essaient de créer ce personnage comme ça. Parce que visiblement, il va faire que du cinématique, hein, Sting, quand il va s'agir de catcher.
Ouais, mais le taker, il y a l'historique catchesque à la WWE, tu vois. C'est pas Sting, ouais, si tu ne vois jamais catcher réellement à la IW.
Mm. Ouais, non, je suis d'accord. C'est des idées qui paraissent bonnes sur le papier, mais concrètement, est-ce que derrière, ça fonctionne? Et il faut faire attention à tout ça, surtout quand tu fais un finish comme on a fait là. Hein. On va passer au mot de la fin, peut-être. Hein. Top flop note. Qu'est-ce que t'en dis?
Bah alors le flop, c'est même pas. En fait, c'est les deux derniers matchs. J'arrive même pas à distinguer. En fait, pour moi, c'est le fait que j'ai rigolé en regardant le cinématique match et le final. Tu vois, c'est mon flop à moi, c'est de me dire. malheureusement, avec deux grosses erreurs comme ça, c'est-à-dire les commentaires sur le cinématique match et l'explosion foireuse, malheureusement, ils sont totalement passés. Enfin, moi, du coup, j'ai totalement décroché sur ces deux matchs-là qui étaient finalement les deux plus importants en termes d'image. Enfin, on pourrait rajouter le match pour la qualif TNT avec le donut géant. En fait, voilà. Le souci, c'est ça. C'est que mon flop, c'est qu'ils ont des trucs qui pourraient être sympas. Ils mettent de la bouffonnerie dessus avec de l'amateurisme pas de l'amateurisme, c'est pas ça, c'est des mauvaises idées. Voilà. Ils ont des bonnes idées qui gâchent leurs bonnes idées. Voilà. C'est plutôt ça que je voulais dire.
L'enfer est dans les détails.
Comme on dit. Voilà. Et là, franchement, ils ont merdé. Le top. Je le donne aux filles quand même parce que c'était moins pire que d'habitude. Voilà. Et je pense que s'ils avaient plus de catcheuses de talent comme ça, ils arriveraient peut-être à faire quelque chose d'intéressant avec les filles. Ouais. Et alors le souci, c'est que il n'y a rien de bon dans les deux premières heures. Et quand je dis rien de bon, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas bon. Il n'y a rien d'exceptionnel dans les deux premières heures. Et la fin m'a complètement. C'était terrible. Donc déjà, je note que sur, on va dire, 2,5. Et puis sur 2,5, je leur fous la moyenne. Allez, on va dire noter sur 3, je leur mets une moyenne sur 3. Donc du coup, la moyenne sur 3, ça fait 1,5. Allez.
1,5. C'est cher payé. Le top, de mon côté, je vais le donner à Hangman Page. Je trouve qu'il a fait le boulot correctement. Le flop, on va le donner au finish, qui était un des les moments les plus ridicules de l'histoire du catch. Et je vais donner une note de 1. Franchement, c'était long. Il n'y avait rien de vraiment bon. Il y avait des trucs vraiment très très mauvais, des choses honteuses qui font limite mal au business. Hein. Donc, dans ces cas-là, il faut être intransigeant. C'était le gros flop de la All Elite Wrestling, finalement, ce Révolution. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait de plus mauvais depuis le début. À un an et demi passé, on s'attendait quand même à quelque chose de mieux.
Après, j'ai envie de dire bienvenue chez les grands, finalement. Il faut bien qu'ils aient un flop de temps en temps. C'est peut-être en apprenant de leurs erreurs qu'ils progresseront. À noter quand même, juste une petite parenthèse qui est un peu hors show, c'est que j'ai vu après que sur les réseaux sociaux, ils avaient un peu essayé d'assumer l'erreur en fait en disant effectivement l'explosion était foireuse, c'est Omega qui a merdé alors qu'il avait un plan pour détruire Moxley. Donc ça, je vais mettre un mini coup de cœur là-dessus parce que je trouve ça bien d'assumer un petit peu l'erreur et puis de rebondir dessus pour passer à autre chose, plutôt que de faire comme la WWE, de dire ça n'est jamais arrivé, j'utilise le truc de Men in Black là pour effacer les mémoires. Attention Roman Reigns, ça, j'ai eu de problème de menottes, oubliez ceci. Je trouve ça bien de t'entendre pour d'assumer ces conneries. Ça arrive de faire de la merde et ça les grandit d'assumer.
Ouais. Alors moi j'ai quand même lu Tony Khan qui disait oui mais les gens s'attendaient à quoi qu'on fasse tout péter, etc.
Après je pense que comme il a vu que les autres catcheurs assumaient, il a dû suivre le mouvement.
Ouais voilà. Bon allez, on place ça dans le kayfabe et puis ça va tenir la route. C'est dommage juste pour Eddie Kingston.
Oui, parce que pour une fois qu'il avait pour une fois qu'il m'intéressait un peu en disant ah bah tiens, il va avoir un rôle un peu différent de héros, etc. Le pauvre.
Le pauvre. Bon, voilà le résultat de ce AEW Revolution. Je vous rappelle qu'on est dispo sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Puis vous cliquez sur la cloche pour ring the bell, pour être averti dès qu'on édite quelque chose de nouveau. On est sur Instagram, sur Twitter, c'est @catchupcdc. Et puis on est aussi sur Instagram, Facebook, tout ça.
On est partout. On est sur Discord d'ailleurs.
On est même sur Discord. Rejoignez-nous sur Discord. Le lien est dans la description.
Ringside, je vais te couper une seconde parce que on a fait un oubli inacceptable et je m'en veux de ne pas te l'avoir rappelé. On a oublié de donner l'avis de Raphaël sur le show. Alors, je vais le faire très très vite alors, du coup parce qu'il nous a laissé un avis très long parce que Raphaël il a beaucoup de choses à dire. Donc il était très déçu par la durée et ça l'a saoulé, que le résultat final était indigeste, que c'était mal coordonné, etc. Et en fait, lui, ce qui l'a vraiment gêné, c'est les arbitres qui trouvent que c'est une catastrophe, en fait, qui sont jamais bien placés, qui sont jamais dans l'action, etc. Donc, c'est une catastrophe, les arbitres. Donc, il leur met le flop. Et il met son top à Bastard Pact et son acolyte, donc Ray Phoenix, qui l'a beaucoup aimé. Et puis voilà, il met un 2 sur 5 lui, parce que finalement, il a rigolé dans le main event, mais il s'attendait à rigoler parce que de toute façon, la stipulation n'avait aucun effet sur lui, hormis un truc type Looney Tunes. et donc, du coup, bah, de toute façon, comme il rigolait déjà, rien qu'en y penser, bah, il a rigolé en regardant.
Ouais, ça faisait un peu Ville Coyote, cette explosion finale. Bah, il est bien généreux avec 2 points. Et je suis d'accord avec lui. Je déteste les arbitres, en particulier Aubrey Edwards, là, qu'ils essayent de mettre over. On s'en fout des arbitres, hein. Il faut qu'ils se fassent discrets. Hein. Ça sert à rien d'essayer de les mettre over. Hein. Je vais pas m'énerver encore avant la fin de l'émission.
Non, ben non, ce serait dommage.
Bon, bah écoute, merci beaucoup pour d'être venu pour cette fameuse analyse, mon bon papy.
Ben oui, merci Ringside de m'avoir invité de partager cette bon moment de rigolade ensemble.
Ouais, c'est une bonne tranche de rigolade pour une fois. On reviendra pour All or Nothing. Bon, une pensée à tonton Chris, hein, quand même. Il doit rager en nous écoutant, je pense.
Ouais, mais je pense que quelque part, ça lui fait du bien de ne pas reviewer ce gros truc compliqué.
On donnera un droit de réponse à tonton. Mais pour le reste, nous n'avons plus qu'à vous dire au revoir. À bientôt, mon bon papy, et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.
Yes, merci Ringside, à bientôt, et à bientôt tout le monde, et continuez à nous écouter nombreux.
C'est fin de show.
J'ai tenté une catchphrase, mais je suis pas sûr qu'elle reste. Hein.